Donc, il nous dit de dessus le perron de son château. Mes enfants, nous sommes vaincus par la trahison, mais nous nous reverrons dans le ciel, la patrie des braves. Défendez, mon petit, que je vous confie. Vive Napoléon II! Il avait idée de mourir, et pour ne pas laisser voir Napoléon vaincu, prend du poison de quoi tuer un régiment, parce que, comme Jésus-Christ avant sa passion, il se croyait abandonné de Dieu et de son talisman. Mais le poison ne lui fait rien du tout. Autre chose, se reconnaît immortel. Sûr de son affaire et d'être toujours empereur, il va dans une île pendant quelque temps étudier le tempérament de ceux-ci, qui ne manquent pas à faire des bêtises sans fin. Pendant qu'il faisait sa faction, les Chinois et les animaux de la côte d'Afrique, barbaresques et autres qui ne sont pas commodes du tout, le tenaient si bien pour autre chose qu'un homme qu'il respectait son pavillon en disant qu'y toucher, c'était se frotter à Dieu. Il régnait sur le monde entier, tandis que ceux-ci l'avaient mis à la porte de sa France. Alors s'embarque sur la même coquille de noix d'Égypte, passe à la barbe des vaisseaux anglais, met le pied sur la France. La France le reconnaît. Le sacré coucou s'envole de clocher en clocher. Toute la France crie « Vive l'empereur !» Et par ici, l'enthousiasme pour cette merveille des siècles a été solide. Le Dauphiné s'est très bien conduit. Et j'ai été particulièrement satisfait de savoir qu'on y pleurait de joie en revoyant sa redingote grise. Le 1er mars, Napoléon débarque avec 200 hommes pour conquérir le royaume de France et de Navarre, qui, le 20 mars, était redevenu l'Empire français. L'homme se trouvait ce jour-là dans Paris, ayant tout balayé. Il avait repris sa chère France et ramassé ses troupiers en ne leur disant que deux mots. « Me voilà !» C'est le plus grand miracle qu'a fait Dieu. Avant lui, jamais un homme avait-il pris d'empire rien qu'en montrant son chapeau? L'on croyait la France abattue? Du tout. À la vue de l'aigle, une armée nationale se refait, et nous marchons tous à Waterloo. Pour lors, là, la garde meurt d'un seul coup. Napoléon, au désespoir, se jette trois fois au-devant des canons ennemis, à la tête du reste, sans trouver la mort. Nous avons vu ça, nous autres. Voilà la bataille perdue. Le soir, l'empereur appelle ses vieux soldats, brûle dans un champ plein de notre sang ses drapeaux et ses aigles, ces pauvres aigles, toujours victorieuses, qui criaient dans les batailles « En avant !» et qui avaient volé sur toute l'Europe, furent sauvés de l'infamie d'être à l'ennemi. Les trésors de l'Angleterre ne pourraient pas seulement lui donner la queue d'un aigle. Plus d'aigle. Le reste est suffisamment connu. L'homme rouge passe au Bourbon comme un gredin qu'il est. La France est écrasée. Le soldat n'est plus rien. On le prive de son dû. On te le renvoie chez lui pour prendre à sa place des nobles qui ne pouvaient plus marcher, que ça faisait pitié. L'on s'empare de Napoléon par trahison. Les Anglais le clouent dans une île déserte de la Grande Mer, sur un rocher élevé de 10 000 pieds au-dessus du monde. Fin finale, est obligé de rester là jusqu'à ce que l'homme rouge lui rende son pouvoir pour le bonheur de la France. Ceux-ci disent qu'il est mort. Ah bien oui, mort. On voit bien qu'ils ne le connaissent pas. Ils répètent cette bourde-là pour attraper le peuple et le faire tenir tranquille dans leur baraque de gouvernement. Écoutez, la vérité du tout est que ses amis l'ont laissé seul dans le désert pour satisfaire à une prophétie faite sur lui. Car j'ai oublié de vous apprendre que son nom de Napoléon veut dire le lion du désert. Et voilà qui est vrai comme l'évangile. Toutes les autres choses que vous entendrez dire sur l'empereur sont des bêtises qui n'ont pas forme humaine. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas à l'enfant d'une femme que Dieu aurait donné le droit de tracer son nom en rouge, comme il a écrit le sien sur la terre, qui s'en souviendra toujours. Vive Napoléon, le père du peuple et du soldat! « Vive le général Eblé !» cria le pontonnier. « Comment avez-vous fait pour ne pas mourir dans le ravin de la Moscova ?» dit une paysanne. Est-ce que je sais? Nous y sommes entrés un régiment. Nous n'y étions debout que 100 fantassins. Parce qu'il n'y avait que des fantassins capables de le prendre. L'infanterie, voyez-vous, c'est tout dans une armée. Et la cavalerie donc? S'écria Genesta, en se laissant couler du haut du foin et apparaissant avec une rapidité qui fit jeter un cri d'effroi au plus courageux. Eh, mon ancien! Tu oublies les lanciers rouges de Poniatowski, les cuirassiers, les dragons, tout le tremblement! Quand Napoléon, impatient de ne pas voir avancer sa bataille vers la conclusion de la victoire, disait à Murat: Sire, coupe-moi ça en deux! Nous partions d'abord au trot, puis au galop. Une, deux. L'armée ennemie était fendue comme une pomme avec un couteau. Une charge de cavalerie, mon vieux! Mais c'est une colonne de boulets de canon! Et les pontonniers? Cria le sourd. Ah, ça, mes enfants! Reprit Genesta, tout honteux de sa sortie en se voyant au milieu d'un cercle silencieux et stupéfait. Il n'y a pas d'agents provocateurs ici. Tenez, voilà pour boire au petit caporal. Vive l'empereur! Crièrent d'une seule voix les gens de la veillée. Chut, enfant! Dit l'officier en s'efforçant de cacher sa profonde douleur. Chut! Il est mort en disant: Gloire, France et bataille. Mes enfants, il a dû mourir, lui, mais sa mémoire, jamais. Gogla fit un signe d'incrédulité, puis il dit tout bas à ses voisins: L'officier est encore au service, et c'est leur consigne de dire au peuple que l'empereur est mort. Faut pas lui en vouloir, parce que, voyez-vous, un soldat ne connaît que sa consigne. En sortant de la grange, Genesta entendit la fausseuse qui disait: Cet officier-là, voyez-vous, est un ami de l'empereur et de monsieur Benassi. Tous les gens de la veillée se précipitèrent à la porte pour revoir le commandant, et, à la lueur de la lune, ils l'aperçurent prenant le bras du médecin. J'ai fait des bêtises, dit Genesta. Rentrons vite. Ces aigles, ces canons, ces campagnes, je ne savais plus où j'étais. Eh bien, que dites-vous de mon Gogla? Lui demanda Benassi. Monsieur, avec des récits pareils, la France aura toujours dans le ventre les 14 armées de la République et pourra parfaitement soutenir la conversation à coups de canon avec l'Europe. Voilà mon avis. En peu de temps, ils atteignirent le logis de Benassi et se trouvèrent bientôt tous deux pensifs de chaque côté de la cheminée du salon où le foyer mourant jetait encore quelques étincelles. Malgré les témoignages de confiance qu'il avait reçus du médecin, Genesta hésitait encore à lui faire une dernière question qui pouvait sembler indiscrète. Mais après lui avoir jeté quelques regards scrutateurs, il fut encouragé par un de ces sourires pleins d'aménité qui animent les lèvres des hommes vraiment forts et par lequel Benassi paraissait déjà répondre favorablement. Il lui dit alors: Monsieur, votre vie diffère tant de celle des gens ordinaires que vous ne serez pas étonné de m'entendre vous demander les causes de votre retraite. Si ma curiosité vous semble inconvenante, vous avouerez qu'elle est bien naturelle. Écoutez, j'ai eu des camarades que je n'ai jamais tutoyés, pas même après avoir fait plusieurs campagnes avec eux. Mais j'en ai eu d'autres auxquels je disais: Va chercher notre argent chez le payeur. 3 jours après nous être grisés ensemble, comme cela peut arriver quelquefois aux plus honnêtes gens dans les goguettes obligées. Eh bien, vous êtes un de ces hommes de qui je me fais l'ami sans attendre leur permission, ni même sans bien savoir pourquoi. Capitaine Bluteau. Depuis quelque temps, toutes les fois que le médecin prononçait le faux nom que son hôte avait pris, celui-ci ne pouvait réprimer une légère grimace. Benassi surprit en ce moment cette expression de répugnance et regarda fixement le militaire pour tâcher d'en découvrir la cause. Mais comme il lui eût été bien difficile de deviner la véritable, il attribua ce mouvement à quelque douleur corporelle et dit en continuant: Capitaine, je hais parler de moi. Déjà plusieurs fois depuis hier, je me suis fait une sorte de violence en vous expliquant les améliorations que j'ai pu obtenir ici. Mais Il s'agissait de la commune et de ses habitants, aux intérêts desquels les miens se sont nécessairement mêlés. Maintenant, vous dire mon histoire, ce serait ne vous entretenir que de moi-même, et ma vie est peu intéressante. Fût-elle plus simple que celle de votre fausseuse? Répondit Genesta. Je voudrais encore la connaître, pour savoir les vicissitudes qui ont pu jeter dans ce canton un homme de votre trempe. Capitaine, depuis 12 ans je me suis tu. Maintenant que j'attends au bord de ma fosse le coup qui doit m'y précipiter, j'aurai la bonne foi de vous avouer que ce silence commençait à me peser. Depuis 12 ans je souffre sans avoir reçu les consolations que l'amitié prodigue aux cœurs endoloris. Mes pauvres malades, mes paysans, m'offrent bien l'exemple d'une parfaite résignation, mais je les comprends, et ils s'en aperçoivent, tandis que nul ici ne peut recueillir mes larmes secrètes, ni me donner cette poignée de main d'honnête homme, la plus belle des récompenses, qui ne manque à personne, pas même à Gondrin. Par un mouvement subit, Genesta tendit la main à Benassi, que ce geste émut fortement. Peut-être la fausseuse m'eût-elle angéliquement entendu, reprit-il d'une voix altérée. Mais elle m'aurait aimé peut-être, et c'eût été un malheur. Tenez, capitaine, un vieux soldat indulgent comme vous l'êtes, ou un jeune homme plein d'illusions, pouvait seul écouter ma confession, car elle ne saurait être comprise que par un homme auquel la vie est bien connue, ou par un enfant à qui elle est tout à fait étrangère. Faute de prêtres, les anciens capitaines mourant sur le champ de bataille se confessaient à la croix de leur épée. Ils en faisaient une fidèle confidente entre eux et Dieu. Or, vous, une des meilleures lames de Napoléon, vous, dur et fort comme l'acier, peut-être m'entendrez-vous bien? Pour s'intéresser à mon récit, il faut entrer dans certaines délicatesses de sentiment et partager des croyances naturelles au cœur simple, mais qui paraîtraient ridicules à beaucoup de philosophes habitués à se servir, pour leurs intérêts privés, des maximes réservées au gouvernement des États. Je vais vous parler de bonne foi, comme un homme qui ne veut justifier ni le bien ni le mal de sa vie, mais qui ne vous en cachera rien, parce qu'il est aujourd'hui loin du monde, indifférent au jugement des hommes, et plein d'espérance en Dieu. Benassi s'arrêta, puis il se leva en disant « Avant d'entamer mon récit, je vais commander le thé. Depuis 12 ans, Jacotte n'a jamais manqué à venir me demander si j'en prenais. Elle nous interromprait certainement. En voulez-vous, capitaine ?»« Non, je vous remercie. » Benassi rentra promptement.